Alors, les habitués des cartes postales vont reconnaître facilement des images qui proviennent du Canada. Et ces images sont diffusées par Radio-Canada International. En direct, c'est Tam Tam Canada, l'émission du vendredi. On accueille les collègues de différentes sections. Très souvent de différentes sections, quand oui. On est chanceux, hein, on amène du monde à la messe, comme disaient les Québécois dans le temps.
Du monde à la messe.
Pour parler d'un sujet en particulier, aujourd'hui, on présente nos amis. Levin Seven est avec nous.
Bonjour.
Alice Chantal Tandem est avec nous.
Bonjour.
Et puis Samir Ben Jaffer est là aussi. Bonjour Samir.
Bonjour.
Alors, évidemment, là, vous savez quoi, au début de chaque émission, en principe, vous ne connaissez pas le sujet de l'émission, il semble qu'il y ait eu des fuites, un peu comme au sein du gouvernement de Trump, hein? Il y a des gens qui ont parlé.
Tout le monde sait tout.
Mais apparemment, je suis la seule personne pour laquelle ça n'a pas fuité.
Ouais, fuité. Okay. Le seul qui connaît vraiment le sujet de l'émission, c'est Levin, puisque ouais. C'est lui-même qui est à la source de l'invitation de notre invité de Marco cette semaine, d'accord? Alors, moi, j'ai organisé ça avec lui. Maintenant, à vous de me dire précisément le sujet.
D'accord.
Puisqu'il est là, vous vous doutez quand même du contexte général de discussion.
Oui, tout à fait. Comme je l'ai dit tantôt, hein, sa seule présence est évocatrice de quelque chose. Donc, j'ose imaginer que le sujet, c'est... Mais il faut qu'on ait les images.
C'est
avant.
Un peu politique internationale.
Politique internationale, Proche et Moyen-Orient, peut-être vente d'armes en Arabie Saoudite.
Wow. Voici les cinq images pour vous aider à cibler davantage le sujet aujourd'hui. Vous êtes dans le bon secteur, le secteur des affaires étrangères. Mais de quoi parle-t-on en particulier?
Ça, c'est le Canada. OK.
Beau drapeau.
OK.
Ouais. Propre, mais un peu froissé.
Bon, la belle feuille.
Attendez. Frontière, ouais. Non
c'est pas... On ne vous aide pas beaucoup, là, jusqu'à maintenant.
L'immigration.
Ah oui, c'est la photo, la fameuse photo
Okay. Mais encore, quel est le sujet de l'émission aujourd'hui, précisément?
Écoutez, vraiment...
La coopération internationale.
Ça fait partie du...
Multiculturalisme. Ouais. Champagne, c'est le ministre... Il était en Chine récemment.
Ça, c'est le nouveau ministre des Affaires étrangères.
Et c'est par rapport au traitement réservé par la Chine.
C'est ça le sujet.
Ben, vous l'avez, là,
c'est ça le sujet. Ouais. C'est une nouvelle critique de notre politique extérieure. Okay,
voilà. Alors, on a un nouveau ministre des Affaires étrangères.
On n'est pas avec Chrystia Freeland, c'est une autre...
C'est une autre époque, maintenant. Ouais. On vient de tourner la page.
Okay.
Vous allez voir, à travers cette émission, on va vous montrer des moments importants depuis 10 ans où on a changé de ministre comme ça, responsable des affaires étrangères. Et il y a eu des fois des changements de politique qui ont été avec ce changement de gouvernement.
Oui, on avait Stéphane Dion, on avait...
Ça vous rappelle des choses, oui.
Oui.
Très, très bien. Alors aujourd'hui, on va essayer, avec quelqu'un qui a écrit un nouveau livre, de voir où ça s'en va, tout ça, depuis que l'actuel gouvernement est en place depuis 4 ans, deuxième mandat qu'il vient maintenant de remporter de justesse.
Oui.
Il y a des critiques. Hein? On n'est pas tous fiers de notre politique internationale et on va
avec
en
le fameux Canada is back. Le Canada est de retour sur la scène internationale.
La grande déclaration de Trudeau.
La grande déclaration de Justin Trudeau.
En quelle année, ça, Levin?
C'était en 2015, je crois.
C'était après, 2015. Après l'élection.
Juste après les élections.
Bon, ben, on s'aperçoit qu'on a des étudiants en classe qui suivent ce qui se passe. C'est très bien.
Oui, pardon.
Alors, jeu de la grosse boule. Premier jeu, on perd combien de points, en principe?
20
points. Si on répond pas correctement à cette première question, évidemment. Il y a 3 questions par émission, sans boule à perdre. Et voici notre sphérologue, cette semaine, responsable. Il y a 2 boutons. Vous faites tourner les 2 boutons?
Oui, ils sont là.
Très bien. On affiche la question. C'est difficile de vous poser des questions parce que vous êtes tous des grands spécialistes de la question de l'international, mais je pense que voici une colle pour vous. En quelle année, selon vous, le Canada s'est-il officiellement doté d'un ministère des Affaires extérieures? Est-ce que c'était A, en 1869, donc 2 années après la création du Canada? Est-ce que c'était aussi tard qu'en 1909?
Non.
Est-ce que c'était C, en 1939, au moment où la Deuxième Guerre mondiale commençait à se faire croître? Ou est-ce que c'était D, parce qu'on a attendu aussi longtemps qu'en 1959 pour créer notre ministère?
Moi, j'irais avec la réponse A. Parce que lorsqu'un pays existe, normalement, il y a la mise en place de différentes institutions. On n'attend pas 2 ans, 3 ans.
Oui, mais quand tu as juste un voisin du Sud, tu n'as pas besoin de créer un ministère.
Non, et puis on n'existe pas simplement par rapport à un voisin au Sud. On existe par rapport à l'ensemble de la communauté internationale.
Il n'y a aucun problème. En 1869, le monde, c'était un peu plus difficile de se déplacer. Moi, j'irais pour 1959.
1959?
Oui, 1959?
Oui, je ne sais pas pourquoi. casques bleus. Vous êtes pas pressé, hein? J'ai des casques bleus, des choses en tête.
Ah, c'est vrai, ça fait l'année des casques bleus, l'invention du Canada.
56, les gars.
56,
merci. En tout cas, on est dans les...
Levin, bravo.
Chris de Suez. Moi, j'irais avec C-1939, ça me semble plus... Après la déclaration de Westminster, j'imagine. Mm-hmm.
Vous imaginez bien, oui, c'est bien.
Oh, là, c'est une... Bon, moi, je reste sur mon D, puisque...
Alors, on a D, on a C, et puis...
Moi, je reste avec mon A.
Vous restez avec A. Voici la bonne réponse. Vous avez tous perdu 20 balles.
Oh, non! Oui.
Ça, ah, ouais. C'est que t'étais un nain.
Nous avons tenté toutes
c'était
sortes
d'explications logiques. C'était qui le premier ministre des Affaires étrangères?
Vous posez une colle.
Non, je vais le chercher, on va googler
c'est
ça.
C'est pas à l'examen, là.
Mais
pendant des années, comme ça, notre politique des Affaires étrangères était menée par qui en notre nom, Levin?
La Grande-Bretagne.
Voilà. Oui,
on était juste un dominion.
Voilà. Alors, ça, c'est... Puis les premières années, on a eu que 3 ambassades, une première, puis on a entendu, puis on en a eu 3, puis on trouvait que c'était beaucoup, ça. Hein? Je pense que c'était avec l'Angleterre, évidemment. Les États-Unis, puis l'autre pays, ou l'autre
France,
pays.
Peut-être?
Je ne sais pas, je n'ai pas la réponse. Mais on va demander à notre invité, Jocelyn Coulon, politicologue, journaliste, politicien québécois bien connu, aussi chercheur au Centre d'études de recherche internationale à l'Université de Montréal, de peut-être nous donner la réponse s'il l'a, comme ça, au bout des doigts. C'est un expert, lui. Alors, M. Coulon, bonjour.
Bonjour.
Troisième pays avec lequel on a eu une ambassade, ce serait quoi?
Je pense que c'est la France.
Oui, la France.
Ça fait plaisir aux Québécois, je suis sûr.
Ben, il fallait.
Oui, c'est essentiel. Alors, écoutez, c'est une semaine qui a été très compliquée pour le Canada, très chargée, à l'OTAN notamment. On a eu quelques échos de ces rencontres-là, apparemment, un peu partout dans le monde. Ça a fait le tour du monde.
Une vidéo virale.
Écoutez, on peut en rire. D'autres ont pris ça très au sérieux, peut-être même un peu trop au sérieux. Mais je lisais...
Joe Biden utilisé ça, oui. Ouais. Exactement, oui.
Mais la CBC a publié un article, je pense, c'est ce matin, il y a une couple d'heures à peine, en disant qu'il pourrait y avoir des conséquences économiques à cette affaire-là, puisque Trump semblait suggérer après, je pense que c'est hier ou mercredi, que les pays qui sont délinquants au niveau du financement de l'OTAN pourraient être appelés à payer au niveau commercial. Je ne sais pas si c'est... on s'en va vers ça. Est-ce que c'était risqué? Est-ce qu'on est dans une situation périlleuse? Je vous pose ça comme question, puisque connaissant Donald Trump, on s'inquiète tous un peu normalement, hein?
Oui, écoutez, je pense que Donald Trump, en ce moment, est plutôt demandeur, c'est-à-dire qu'il tente désespérément de faire adopter le traité de libre-échange avec le Canada et le Mexique. Et ceux qui bloquent, ce ne sont pas les républicains, ce sont les démocrates.
Les démocrates, exactement.
Donc, ce serait très difficile pour Trump de recommencer une guéguerre avec le Canada. Je pense que c'est un incident qui va passer. Évidemment, le président a la mémoire longue. Il va certainement retourner à ce qu'il fait le mieux, c'est-à-dire ses tweets insulteurs. Tous les chefs d'État sont passés par là. Mais à la fin, ce qui compte, c'est les relations entre les États et non pas les relations entre les individus.
Très bien. Venons-en maintenant à votre livre. Vous avez utilisé l'expression, pas vous personnellement, mais Trudeau avait dit ça, on l'a dit en début de l'émission, « Canada is back ». Et vous, vous y allez de votre propre cru en disant « Canada is not back ». Et on va montrer les images de ce livre où M. Coulon s'est inspiré dans le... Je sais pas, est-ce que c'est vous qui avez eu l'idée de la photo en première?
Non, moi j'ai eu l'idée de la couverture en français. Le livre en français, c'est un selfie avec Justin Trudeau. C'est une caricature de Serge Chapleau. Mais en anglais, l'éditeur a estimé que c'était plus parlant, la photo de Justin en Inde.
Alors, c'est la position du lotus. Il n'y a que les mains qu'il met en lotus, là. Une chance que les jambes n'y vont pas bien. C'est plus compliqué à faire, je le sais, parce que j'ai fait du yoga, là, je vous dis. Alors, mais très sérieusement, oublions les potins. Parlons de ce qu'on a fait depuis 5 ans avec Chrystia Freeland. Ça semblait du solide pour plusieurs, puisqu'on a négocié un accord, ou pratiquement négocié un accord de libre-échange avec les États-Unis. Mais vous, dans votre livre, vous dites Trudeau ne sait pas vraiment où il s'en va avec sa politique étrangère.
Alors, moi, ce que je dis, c'est le slogan qui a été adopté en 2015, « Canada is back », faut savoir pourquoi il a été adopté. Moi, je n'y étais pas très favorable, mais je vous dirai pourquoi. Mais lorsqu'on s'est réunis, parce que j'étais dans l'équipe de conseillers de Justin Trudeau en 2014-2015, on s'est réunis pour rédiger une plateforme de politique étrangère qui allait se distinguer des conservateurs. Parce que la réflexion menée par les libéraux, mais par d'autres, c'était que les conservateurs avaient isolé le Canada sur la scène internationale. Et ça, ça s'est cristallisé avec la défaite du Canada pour obtenir un siège au Conseil de sécurité en octobre 2010. C'était la première fois depuis 60 ans que le Canada était battu pour obtenir un siège au Conseil de sécurité. Donc, l'équipe de réflexion a rédigé un programme de politique étrangère qui se distinguait des conservateurs, d'où le slogan « Canada is back ». En fait, le Canada n'était jamais parti de la scène internationale, mais il n'était pas là où les libéraux voulaient qu'il soit. Et je crois que le programme donnait de grandes lignes sur le maintien de la paix, l'aide au développement, le dialogue avec la Russie, une position équilibrée dans le conflit israélo-palestinien, toutes choses qui avaient été abandonnées par les conservateurs.
Alice.
Alors, Monsieur Jocelyn Coulon, vous estimez que le Canada n'est pas de retour sur la scène internationale, mais non, lorsqu'on regarde au niveau... Pardon?
Allez. Non, ce que je dis, c'est que le Canada était sur la scène internationale
le Canada n'en est jamais sorti.
N'en est jamais sorti. Les libéraux ont voulu donner une autre orientation en mettant le Canada, par exemple, dans les opérations de paix, ce qui n'était pas le cas avec les conservateurs. Okay. Ils sont allés au Mali, mais vous connaissez les circonstances, un an au Mali, malgré que l'ONU avait demandé 3 ans.
Mais ce que nous notons par rapport à cette politique internationale du Canada, c'est que le pays se prononce assez clairement sur différents enjeux. Quand on regarde les droits de l'homme, par exemple, on a vu dernièrement, il y a eu quelques bisbilles avec l'Arabie Saoudite en ce qui a trait aux droits de l'homme. Il y a également des investissements qui sont annoncés par le fédéral pour soutenir l'éducation des jeunes et la question du genre gender equity à travers le monde. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Est-ce que ce n'est pas une façon pour le Canada de se positionner clairement sur des enjeux dignes d'intérêt?
Alors moi, je pense qu'ici, il y a un discours, il y a une rhétorique et il y a la réalité. C'est bien beau d'envoyer un tweet pour dénoncer l'arrestation de 3 Saoudiennes militantes des droits humains, mais si vous n'envoyez pas de tweet pour dénoncer les bombardements saoudiens au Yémen qui tuent des milliers de femmes et de filles, c'est un drôle de message que vous envoyez aux femmes et aux filles du Canada et du reste de la planète. Ça veut donc dire que vous avez une politique étrangère qui semble être plus intéressée aux effets d'annonce, au fait que Madame Freeland se rend à l'aéroport de Toronto pour accueillir une réfugiée saoudienne. Ça se fait une belle image, surtout en politique intérieure, à un an d'une élection fédérale. Mais ça ne donne rien aux Saoudiens parce que je vous ferai remarquer que les 3 Saoudiennes sont toujours en prison et que M. Badawi a commencé, je crois, sa huitième ou neuvième année en prison. Donc, une grande rhétorique, mais peu de résultats.
Monsieur Coulon, vous avez parlé du conflit au Moyen-Orient. Récemment, le Canada a approuvé à l'ONU une résolution qui donne droit à l'autodétermination des Palestiniens. Ouais. Pourquoi les libéraux ont attendu toutes ces années pour adopter ce genre de résolution, puisque c'est la même politique qu'ils adoptent puisqu'ils sont à leur deuxième mandat?
Alors, n'oublions pas quelque chose. Lorsque cette résolution a été adoptée il y a 2 semaines, évidemment, plusieurs pays ont applaudi, certains groupes ici au Canada ont applaudi, mais on a oublié de mentionner que 3 jours auparavant, le Canada avait voté contre 8 résolutions sur les droits des Palestiniens et sur d'autres questions afférentes au Proche-Orient. Donc, finalement, les positions adoptées par les conservateurs pendant 10 ans, qui consistaient à voter systématiquement contre toutes les résolutions sur les Palestiniens, s'est poursuivie avec les libéraux, à la notable exception de la résolution que vous avez soulignée tout à l'heure. Donc, le bilan doit toujours être analysé à travers l'ensemble des résolutions et pas seulement la modification d'un vote sur une résolution.
Levin.
J'aimerais savoir, est-ce que vous pensez que le nouveau ministre des Affaires étrangères qu'on a, ça va changer des choses? Est-ce qu'on va voir un peu le retour des politiques de M. Dion avec... en essayant d'avoir meilleures relations avec la Russie ou des gros enjeux comme ça?
Voilà. Le bilan que je trace des 4 ans du gouvernement, du premier gouvernement Trudeau en politique étrangère, nous oblige à souligner que nous avons des relations exécrables avec la Russie, la Chine, l'Inde et l'Arabie saoudite. Ce sont 4 pays qui ont un poids dans le système international, comme vous pouvez vous l'imaginer, et ce sont 4 pays qui ont une grande capacité de nuisance à l'Assemblée générale des Nations unies, et nous pourrions en faire les frais en juin 2020, lorsque le vote se tiendra afin de départager le Canada, l'Irlande, la Norvège pour obtenir un des 2 sièges au Conseil de sécurité. Donc, nous avons mal joué nos cartes. Et bien entendu, tout ne repose pas sur le Canada. Toutes les responsabilités ne reposent pas sur le Canada dans les relations difficiles que nous avons avec ces 4 pays. Mais je vous ferai remarquer que nous sommes le seul occidental qui soit dans cette configuration. C'est assez exceptionnel. Hein. Moi je n'ai jamais vu ça.
Oui. J'aimerais vous parler encore davantage de cet homme qu'on voit présentement à l'écran, parce que c'est un inconnu pour nous ici à la station. Alors, vous imaginez pour l'ensemble des Canadiens qui seraient à l'écoute. Marc-André Deschamps, si vous habitez au Québec, dans son comté, vous savez qui il est. Autrement, vous demandez qui il est. Moi, j'ai cherché des entrevues où il s'est exprimé. On a trouvé une couple à Radio-Canada, là. Mais... il n'a pas accordé d'entrevue depuis qu'il a été nommé ministre des Affaires extérieures, à ma connaissance.
Jean-Philippe Champagne.
Oui.
François-Philippe
Champagne. Exactement.
Pardonnez-moi. Ouais. Et alors, qui est-il et que va-t-il faire?
Alors, pour rebondir et sur votre question et sur la question de Levin, c'est sûr que M. Champagne n'est pas un idéologue comme Mme Chrystia Freeland. Mmh. Et on a bien vu pendant les 3 années où Mme Freeland était là qu'elle avait des idées bien arrêtées. Alors qu'en diplomatie, il faut savoir aussi composer, dialoguer, être flexible, d'autant plus que le Canada est une nation commerçante. Une très grande partie de sa richesse se fait avec le commerce, bien entendu, avec les États-Unis. C'est pour ça qu'on sourit à chaque fois que Donald Trump nous insulte, parce qu'on n'a pas vraiment le choix. Donc, je crois que le ton va changer avec M. Champagne, qui est un pragmatique, qui est quelqu'un qui aime avoir des résultats. Et à chaque fois qu'on va lui proposer, à chaque fois qu'on va le mettre devant un problème, eh bien, il va demander des solutions et des solutions concrètes. Et non pas de grands discours théoriques sur les relations internationales. Donc, au moins, cet aspect-là devrait améliorer l'atmosphère de nos relations avec ces 4 pays.
Est-ce que vous pensez qu'il va avoir l'indépendance pour agir dans ces dossiers-là?
Alors, c'est une très bonne question parce que à l'époque où Stéphane Dion était ministre des Affaires étrangères et qu'il a essayé, par exemple, d'ouvrir le dialogue avec la Russie, Mme Freeland a mis les bâtons dans les roues à chaque fois. Et donc, Mme Freeland demeure la vice-première ministre. Des fois, on peut se demander si elle n'est pas premier ministre bis dans ce pays. Alors, elle sera certainement autour de la table du Conseil des ministres, très attentive à ce que M. Champagne va dire sur les relations avec les pays avec qui les choses ne vont pas très bien.
Chantal.
Vos réponses ont été très, très alarmistes hein, d'entrée de jeu par rapport à la politique étrangère du Canada. À vous entendre, on a l'impression que c'est une politique qui a besoin d'être dépoussiérée. Dites-moi, c'est quoi le remède? C'est quoi la solution pour remettre la politique étrangère du Canada sur de bons rails?
Oui. Alors, je pense que la première chose que M. Champagne a déjà commencé à faire, d'ailleurs, c'est le dialogue. C'est retrouver le sens du dialogue qui a toujours caractérisé la politique étrangère depuis au point 1945. Je vous ferai remarquer un seul exemple. En 1955, Lester B. Pearson, qui était ministre des Affaires étrangères, a été le premier ministre des Affaires étrangères occidentales à se rendre à Moscou pour rencontrer les successeurs de Staline. Pas parce qu'il les aimait, mais il voulait savoir un peu qu'est-ce qu'ils avaient dans le ventre et essayer d'établir une espèce de dialogue à un moment où il y avait un changement de régime en Union soviétique et peut-être même le début d'un dégel. C'est ça, le Canada. Alors, malheureusement, ça n'a pas été le cas. Je ne parle pas seulement de Mme Freeland. Les 10 ans de gouvernement conservateur n'ont pas été aussi ouverts. Alors, je pense que la période 2006-2019 a été difficile pour notre diplomatie. Nous avons perdu un siège au Conseil de sécurité. Nous avons des relations exécrables avec ces 4 grands pays. Donc, il est temps de reprendre le dialogue. Ça me semble être la première condition. La deuxième, c'est de se servir des fonctionnaires, des diplomates qui travaillent au ministère des Affaires étrangères et qui ont des idées. Les conservateurs les avaient ignorés pendant 10 ans et d'une certaine façon, les 4 dernières années, on a établi, bien entendu, le dialogue avec les fonctionnaires, mais pas assez. Ce sont eux qui pensent la politique étrangère et donc ce serait intéressant de les écouter plus souvent.
Monsieur Coulon, j'aimerais parler du cas particulier de la Chine. Vous avez parlé des 4 pouvoirs avec lesquels on a des difficultés, mais la Chine, ça semblerait être, à mes yeux en tout cas, de non-experts, un problème particulièrement épineux. Mais oui. En regard des relations plutôt extraordinaires qu'on a cultivées avec la Chine depuis 1973, lorsque le père de Justin Trudeau, Pierre-Éliott Trudeau, s'était rendu en Chine, avait reconnu... 70, d'accord.
Ouais.
Ça avait fait tout un bruit internationalement. La Chine avait été très reconnaissante envers le Canada pour ses gestes diplomatiques très importants. Il semble qu'on ait perdu un capital énorme, mais est-ce que c'est des apparences? C'est un jeu d'apparences ou c'est en réalité, profondément, on a un problème sérieux?
Ben, c'est sûr que les relations avec la Chine ne seront plus ce qu'elles étaient avant l'arrestation de Mme Meng et l'arrestation, bien sûr, des 2 Canadiens. Nous allons devoir réfléchir un peu plus sur le sens à donner à notre relation avec la Chine. En même temps, nous savons très bien que la meilleure façon de desserrer l'étau américain qui se resserre sur le Canada, il ne faut pas oublier que, oui, on va avoir un nouvel accord de libre-échange qui va nous intégrer encore plus dans l'économie américaine, mais nous avons des relations militaires qu'on oublie souvent de signaler, qui nous intègrent dans les stratégies militaires américaines. Alors, une façon pour le Canada de gagner, disons, un peu plus d'indépendance vis-à-vis des États-Unis, c'est de multiplier les relations sur la scène internationale et surtout de diversifier notre économie. Et la diversification, elle commence et elle se poursuit surtout avec l'Asie. J'ai l'impression que nous avons fait le plein avec l'Europe. Il y aurait l'Afrique aussi. Il faudrait penser sérieusement à l'Afrique, parce que vous savez que dans 30 ans, la population africaine va doubler. Elle va passer de 1,2 milliard à 2,5 milliards. Ce n'est pas pour rien que le Brésil, la Turquie, l'Inde, l'Allemagne, le Japon sont sur le continent africain et même organisent des sommets de chefs d'État africains avec leur vis-à-vis japonais, indien ou brésilien. Alors, pour revenir à la Chine, je pense que nous n'avons pas le choix de poursuivre cette relation. Je trouve même que le gouvernement se comporte très bien, c'est-à-dire qu'il a adopté une position de low profile dans cette affaire, ne pas faire de vagues, de négocier calmement, discrètement, et ça donnera certainement des résultats.
Levin.
Oui, moi, l'autre pouvoir, et on a parlé des relations commercial, c'est l'Inde. C'est un pouvoir qu'on oublie souvent.
Oui.
Et on a eu plusieurs experts qui ont dit que la visite désastreuse de M. Trudeau à l'Inde. Qu'est-ce qui se passe avec les relations avec l'Inde?
La plupart des experts estiment que l'Inde va devenir la deuxième ou troisième puissance économique du monde dans une vingtaine d'années, 25 ans. Ça veut donc dire que le Canada doit se positionner sur ce marché. Et à l'évidence, le voyage de l'année dernière a, disons, gelé ses relations pour quelques années. C'est très dommage. Il faut, là encore, réapprendre l'art du dialogue et surtout, surtout, être sensible aux situations locales. L'Inde est un pays démocratique qui, depuis 1948, essaie de tenir ensemble 1,2 milliard d'habitants de multiples races, langues, cultures, cohabitent en Inde. Et lorsque le premier ministre canadien arrive, fait un petit tour de piste avec ses vêtements, mais surtout, surtout, amène avec lui quatre ministres sikhs, il envoie vraiment un drôle de message au gouvernement indien et aux Indiens. Et je pense que le bureau du premier ministre a manqué de finesse ici.
On a le temps pour une dernière question. Samir?
Ben écoutez, moi, je voudrais savoir quel serait l'avenir des relations internationales du Canada avec un peu l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient. Comment vous les voyez? Je parle d'Afrique du Nord.
Oui. Écoutez, on a des relations importantes avec l'Afrique du Nord. En fait, lorsqu'on regarde nos échanges avec le continent africain, on se rend compte que, essentiellement, ces relations se font avec les trois grands pays du Maghreb, là, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie. Évidemment, nous avons aussi des relations avec le Nigeria, l'Afrique du Sud et d'autres pays, mais le gros des relations avec l'Afrique se fait avec ces trois pays. Je pense que ces relations vont se poursuivre. Il y a des diasporas de ces trois pays, essentiellement au Québec, à Montréal, qui sont très importantes. On a des liaisons aériennes presque quotidiennes et je pense que ces relations vont se poursuivre et vont même s'approfondir.
Est-ce que M. Trudeau est encore susceptible de vous appeler pour des conseils après tout ce que vous écrivez?
Et tout ce qu'il dit aussi.
Je pense pas, mais vous seriez surpris de voir combien de membres de ce gouvernement ou même d'ambassadeurs en poste qui me parlent.
Très bien. Merci de nous avoir parlé à nous aujourd'hui.
Très bien.
Fantastique. Merci. Et c'est donc M. Jocelyn Coulon, politicologue, journaliste politicien québécois très connu, grand journaliste, notamment au Devoir, si mes souvenirs sont bons. Vraiment, c'est quelqu'un que moi, je regardais beaucoup à la télévision lorsque je m'informais à la télévision
française.
C'est
sûr qu'il est très inspirant.
Oui, ouais, c'est sûr. Écoutez, on termine avec ces images de son livre. Ça, c'est la version anglaise de son livre, d'accord?
Avec le selfie, oui.
Oui. Voilà. Alors, sans trop dire de choses, voici. Quel était le titre du précédent livre d'analyse politique de Jocelyn Coulon? Et là, il y a une petite erreur. Je vais vous donner un choix de réponse. Il y a une petite erreur, mais okay. Il y a une erreur pas dans la question, mais dans la réponse.
Oui.
Alors, si vous découvrez l'erreur dans la réponse, je vous offre des points de plus. Alors là. Et si vous n'avez pas la bonne réponse, vous allez perdre
vos points. Quand même.
Bon, on va essayer.
Est-ce que c'est compliqué?
On y va.
On affiche. Quel était le livre du précédent, le titre du précédent livre d'analyse politique de Jocelyn Coulon? Est-ce que c'était A, les affaires commerciales avant les affaires étrangères? Est-ce que c'était B, grand pays avec petit pouvoir? Est-ce que c'était C, un selfie avec Justin Trudeau? Ou est-ce que c'était D, le plus meilleur pays?
Ben, moi, ouais. J'irais avec le D.
Ouais, mais en fait...
plus meilleur, c'est déjà une erreur.
Il y a même un E, on ne peut pas l'afficher.
Parce qu'on a un superlatif absolu, doublé d'un autre superlatif absolu, parce que ça donne une faute.
Ouais. Ben, il y a aussi un E, c'est ça qu'on ne peut pas afficher.
Le plus meilleur pays au monde, selon
moi. Ce serait le...
Il n'y a aucune de ces réponses, ce serait E. Ça, on ne peut pas l'afficher techniquement.
Ah, il y a aussi ça. Oui, okay. Oui, quel était le titre? Pour moi, c'est le C. C'est un selfie avec Justin Trudeau. Non, c'est un selfie, c'est celui-là. Ouais. Uh-huh. Je mélange là. Attendez.
Alors, vous avez trouvé l'erreur. Félicitations. Ah! Le premier, c'était pas le dernier ou le précédent. C'est l'actuel. Voilà, c'est l'erreur.
Parfait. D'accord. Je reprends mes points ou...
Vous avez non seulement des points, mais vous...
Donc, je me retrouve avec 120 points maintenant.
Oui, exactement.
Et c'est quoi le truc avec la réponse D? Le plus meilleur pays au monde, selon Chrétien?
Je ne sais pas c'est quoi la bonne réponse. Son précédent livre, je ne sais pas, je n'ai pas la réponse. Mais en tout cas, je me suis un peu trompé en écrivant. Puis,
okay, bon, ben,
on suit avoir du plaisir
c'est
ensemble.
Correct.
C'est correct. Ouais, personne ne perd de points, mais non, il augmente en prestige.
J'en ai 120, moi. J'en ai 120.
Ouais. Non, nous en avons 100.
J'en avais perdu 20 la dernière fois. Oui. Vous venez d'en gagner 30. Ça fait combien, ça?
110.
110, exactement.
Okay. Bon, ben...
Les autres ont 80. C'était pas bon en mathématiques, les copains.
Il n'y a pas de souci.
Voilà. J'ai une petite affaire pour vous, pour ceux qui veulent en savoir davantage sur la politique internationale. Ah, oui. Moi, le premier, parce qu'il faut que je m'informe, moi aussi.
Ouais.
Et souvent, je consulte le site web de Radio-Canada International pour savoir ce que vous avez écrit précédemment, pour savoir comment vous l'avez dit. C'est pas évident. Parce que l'histoire, ça bouge rapidement en politique internationale.
Oui, ce qui s'est passé il y a 10 ans. François-Philippe Champagne.
Voilà. Alors, on défile. Si vous êtes capable de lire la moitié des titres qui sont inscrits, dites-le-moi. La Chine n'est pas un adversaire du Canada, ce que disait récemment le ministre de la Défense du Canada.
Et l'ambassadeur hier était un peu... Il a un peu tensé le Canada, mais bon.
Ah. Et puis, le Canada vote contre Israël à l'ONU. Vous en avez parlé un peu plus tôt.
Oui. Et je pense que Chrystia Freeland restera dans le... ce que tu en penses, Levan?
Dans Chrystia les Freeland, négociations commerciales.
Est-ce qu'elle marquera, quand on parlera dans le futur de la politique étrangère canadienne, est-ce que Chrystia Freeland sortira du lot ou non?
Oui, j'imagine.
Oui,
c'était
pas une ministre effacée. Elle a même énervé Trump une fois. Donc, elle a... À la sortie de ses gants.
Il y a Marie Jobin qui a écrit un sujet à son titre, c'était
La grosse pointure. Oui, ouais. J'ai vu passer ce titre-là.
Puis en passant,
il ne m'a pas laissé indifférent.
J'ai vu ça ce matin, j'ai trouvé ça. On se demandait si elle allait sortir un peu des politiques étrangères ou si elle allait rester dedans.
Mais apparemment, elle reste dans les négociations. Ouais. Oui,
John
Bell,
c'est lui, c'est John Bell.
Ça, c'est les années Harper.
Oui.
Okay. Alors, voyons, on remonte dans le temps facilement grâce à ces articles-là. Chrystia Freeland qui a dit ce matin ou hier au sujet de la vidéo aux États-Unis, la vidéo virale, que ça ne devrait pas affecter fondamentalement les relations entre les deux pays, qu'il y a beaucoup de points de divergence, mais que fondamentalement, les deux arrivent à se parler.
Elle n'a fait que réitérer la position du premier officiel, ministre du Canada.
Ouais. Mais la vidéo a été utilisée par le camp adverse de Trump.
Joe Biden qui a utilisé dans une
publicité
qui vise Trump et qui est la première publicité qui a vraiment marqué un but dans selon plusieurs analyses.
Il y en a qui vont en faire un capital politique quelque part.
En tout cas, Trump comme Monsieur Coulon a dit, Trump il a une mémoire très
éléphantesque.
Donc, on retrouvera ça peut-être dans un prochain tweet.
Ouais. Écoutez, on est légèrement délinquant d'après Trump. Il aurait pu dire pire que ça, hein, j'en suis sûr. On est prêt pour la troisième question, la grosse boule. Mais là, c'est sérieux. Vous allez tous perdre des points. D'accord? Pas d'excuses. 50 boules à perdre.
Oh.
Et voici la question, on l'affiche pour tout le monde. Le nombre de Canadiens interdits de séjour aux États-Unis. C'est marqué interdiction, mais... Interdit de séjour aux États-Unis a augmenté depuis un an de quel pourcentage, selon vous?
C'est.
J'ai pas vu les choix de réponse.
On avait 150%, 200%.
Bon,
moi, je vais avec 150%. Je crois que j'ai vu passer
ça. Vous étiez très rapide en classe, vous. Hein,
quand oui. Avant la fin de la question, elle a...
Non, mais je crois avoir vu passer ce chiffre.
Moi, j'irai avec D200%.
D200% pour notre copain Lavon. On réitère votre réponse.
150%.
150% pour Alice. Et qui dit mieux?
Moi, j'irai pour 100%.
100%?
Parce que j'ai entendu parler que ça a doublé ou quelque chose comme ça.
Mais j'ai cru voir quelque part écrit 150%.
C'est un petit... Ouais. Mais ce qui est drôle, je me rappelle, c'est un petit chiffre. C'est pas en milliers. C'est quelque chose de petit que ça a doublé, je pense. Je pense que c'est B. On va aller pour B.
On va aller montrer la bonne réponse. La régie vous indique maintenant la bonne réponse. Qui remporte ces
boulons?
Ça a doublé. C'est passé de 312.
C'est ça, genre 600 personnes, quelque chose comme ça. C'est pas... Ah, parfait. Donc, je sors avec 110. Parfait.
Alors, il y a plus d'interdictions, mais on ne sait pas pourquoi la politique américaine n'a pas changé, sauf que le président est plus sévère envers l'immigration.
Peut-être avec la loi sur la marijuana.
La marijuana, je pense que ça aide pas, ça. Hein?
Je pense que
ça aussi, c'est ce que les reportages disaient, que souvent, les officiers de services frontaliers qui... travaillent peut-être sur la côté mexicain.
Ah, ils ont été
mutés. Alors, ils se sentent beaucoup plus sévères maintenant. Alors,
c'est un bon point.
Des petites choses qui peuvent avoir des grosses conséquences.
D'accord, mais il faut toujours dire du bien des douaniers américains.
Ah oui.
Particulièrement cette émission-ci, sinon on va se ramasser.
Parce qu'ils regardent.
Parce qu'ils regardent tout. Hein?
Oui, parce que maintenant, ils peuvent aller sur Facebook, voir ce qu'on a déclaré.
On peut regarder votre téléphone à l'intérieur, demander le mot de passe. On ne peut pas refuser. Hein?
Au Canada, ça a été... Où est-ce que ça a été dit que c'était illégal?
C'est en cours que ça s'est rendu.
Il y a quelque chose en cours en ce moment.
Ouais. OK, on est prêt pour l'image de la semaine. On tourne la page complètement. Okay. L'image de la semaine. Écoutez, vous avez tous une image certainement en tête, c'est peut-être pas la mienne. Tant pis.
Trudeau, Macron et...
Ah oui, c'était ça.
Et Boris Johnson.
Oui, avec la
fameuse vidéo virale.
Avec la princesse Anne ou quelque chose comme ça.
Bon, on va regarder si vous avez la bonne réponse. C'est fou comme vous répondez vite aux questions.
Mais c'est Alice Chantal.
Malheureusement, je ne gagne pas de points.
On regarde la vidéo numéro 8 qui nous donne la réponse à l'image de la semaine.
Ah oui, bravo Alice, bravo.
Félicitations. Alors là, on va vous montrer les images de CBC. C'est la vidéo de CBC qu'on vous montre. Mais ça a été repris partout dans le monde. Alors voilà. En anglais, c'est sympathique ce qu'on entend. On entend des choses. En français, on se demande, mais de quoi ils parlent? Ils boivent beaucoup. Ils buvattent beaucoup.
C'était en caméra cachée.
Regarde comment il fait le geste. Quand Trudeau fait le geste. Elle était autorisée, la caméra circulait.
Le Canada, c'est un double face, là, il dit, un double visage.
Mais c'est un good guy.
Un good guy. Ah oui. Generally speaking, c'est good guy.
Donc il a quelque peu nuancé.
Bon, Merkel qui était à côté, elle voulait que ça.
A very good guy.
On dirait qu'il est assis sur des tisons chauds, là. Ouais. Mais comme elle le disait, notre invité, Trump a besoin du Canada en ce moment pour passer quelque chose, faire adopter quelque chose. Alors, pour une fois, on a peut-être le gros bout du bâton.
La réaction très, très mesurée.
Bien sûr, ce qui surprend.
Regardez.
Toujours.
Il n'a pas besoin de lui tenir le bras comme la dernière fois pour qu'il ne le bouscule pas au début.
Voilà.
Ça, c'est le...
Ça, c'est à Charlevoix. C'est à
Charlevoix. Les images du sommet au Canada.
Ça, c'est la dernière fois qu'il y a eu un problème entre les deux hommes politiques très sérieux, en juin de l'an dernier. Merci beaucoup à CBC pour ces images. Très gentil de leur part de nous prêter ce matériel qui, après tout, nous appartient. Et puis, voilà. Est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose? Parce qu'il reste encore 6 minutes de signaux gratuits.
Alors, qu'est-ce qu'on a ajouté? On attend la ratification de la LINE.
J'aurais aimé demander des questions concernant le discours de Trump qu'on a eu hier. La politique étrangère était le dernier point qui était mentionné dans le discours.
Donc, ça rejoint les idées de M. Coulon. Un problème.
C'est intéressant qu'ils vont encore essayer d'aller chercher ce siège dans le Conseil,
de sécurité.
Mais aussi renforcer
renforcer le partenariat avec la Chine.
Et les partenaires à l'OTAN et d'autres pays occidentaux. Alors, c'était vraiment intéressant de voir sa réaction.
Et aussi, s'il avait écouté l'ambassadeur chinois avant-hier, j'aurais aimé s'il commentait un peu ce qu'il avait dit.
Il nous a dit, l'ambassadeur chinois, le nouvel ambassadeur chinois au Canada, de ne pas nous mêler de Hong Kong ou de ce qui se passe.
Des Ouïghours.
Ça ne nous regarde pas parce que ça se passe en Chine. Grand pays, grande nation. Fier d'elle.
Sauf qu'il oublie que quand il est question des droits de l'homme, ça ne concerne plus qu'un pays, ça concerne le monde entier, la communauté internationale.
C'est un point de vue.
C'est une question des droits de l'homme.
Oui.
Dans tous les cas.
Je faisais l'avocat du
diable. En fait, Canada est signataire de différentes conventions internationales sur les droits de l'homme et devrait normalement avoir son mot à dire partout dans le monde où les droits de l'homme se trouvent.
Et il devrait le dire plus souvent, disait M. Coulomb.
Et quelque part, c'est aussi une atteinte à la liberté d'expression. On est libre de se prononcer sur quelque dossier que ce soit.
D'accord.
Donc, un ambassadeur n'a pas à limiter...
C'est vraiment intéressant parce que quand un ambassadeur dit quelque chose comme ça, c'est comme il... nous provoque de... En fait, si quelqu'un dit aux Canadiens « Vous ne pouvez pas y aller », c'est sûr qu'ils vont y aller.
Ah oui, ils leur montrent... ils pointent les endroits où il faut y aller, oui.
Tout à fait.
Ouais,
parce que si ça se fait discrètement, peut-être là, on...
On ne fera rien.
Mais quand c'est ouvertement comme ça, je me demande si le Parlement ou le Sénat qui va adopter cette motion... va sentir cette pression et agir contre la Chine.
Sur ce point, Levon, je voulais lui demander, discuter de ça, c'est la notion d'ingérence dans les affaires des pays. À partir de quel moment ça commence, ingérence? Est-ce que dès qu'un ambassadeur parle, je ne sais pas si c'est flexible ou si c'est fixé.
Dès que ça fait l'objet d'une fuite dans les journaux, c'est de l'ingérence. Autrement, ça se règle entre amis.
Parce que c'est des sujets quand même
assez délicats, assez sensibles.
Dans ce cas-là, l'ambassadeur chinois parle directement de la politique canadienne envers la Chine. Alors, mais si c'était quelque chose qui était avec la politique intérieur canadien,
là ça devient de l'ingérence.
D'accord.
C'est dans les relations.
On appelle ça comme ça de l'extrogérance.
Mais quelque part aussi, je pense qu'il y a un droit d'ingérence.
Ok.
Ça c'est tout un débat. L'humanité en face, c'est tout un débat.
Sur le plan international, le droit international, quand. Pour des raisons humaines ou humanitaires.
Depuis l'affaire du
Golfe. Okay, l'ingérence humanitaire.
Oui, tout à fait.
Okay.
Donc, il y a un droit d'ingérence qui permet à des pays d'intervenir en situation critique.
C'est une politique qui a été avancée par notre ancien ministre des Affaires étrangères, Lloyd Robertson. Mais... c'est pas accepté
partout.
Surtout les pays comme Chine, la Russie, l'Iran, qui ont des problèmes avec les droits d'homme ou d'autres interprétations des droits d'homme. Ils ne sont pas du tout d'accord.
Ce n'est pas noir ou blanc, c'est vraiment...
Et puis eux, ils ont le droit de veto. Alors ça les aide
surtout, quand même. Surtout la Russie et Chine.
Ouais. Écoutez, merci beaucoup pour notre tour de géopolitique. C'est très agréable. On a passé par l'Afrique du Nord.
Oui.
On a passé par tous les continents.
Par tous les continents, sauf nécessairement.
Je ne sais pas si l'Arctique, on aurait besoin de faire un arrêt quelque part.
Peut-être dans une prochaine émission.
Peut-être. Ah ben tiens, prochaine émission, l'Antarctique. Ben ouais, fantastique.
Pourquoi pas.
Ça serait intéressant.
Ouais. Alors, une de ces prochaines émissions, pas la prochaine, parce qu'on veut quand même continuer à jouer à la découverte du jeu.
Tout à fait.
Devinez le sujet cette semaine. Voilà. À la semaine prochaine, tout le monde.
Au revoir.